Aujourd'hui, le journal Vert Demain a l'honneur de vous présenter Maître Guy Guérin, avocat de Montréal et professeur de procédure civile à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a occupé dans plusieurs causes touchant les droits civils. Maître Guérin.
Mesdames et messieurs, je vous en prie, ne touchez pas à votre appareil. J'ai à vous parler d'un sujet vital, votre liberté de parole et d'expression. Je vous propose un marché. Si je n'ai pas réussi à vous intéresser dans une minute, vous pourrez alors, c'est entendu et je me résigne, me changer pour un orchestre de jazz, une annonce de savon ou un joueur de flûte. Le 23 février 1962, deux créditistes pèlerins d'un monde meilleur furent arrêtés par la police de Montréal, un peu comme des criminels de droit commun. Leur crime, sans permis municipal, vous entendez bien, sans permis municipal, de porte en porte, ils distribuaient des numéros du journal Vert Demain et sollicitaient des adhésions à leur groupement. À un an de distance, soit le 3 avril 1963, à Hull cette fois, 6 créditistes furent arrêtés pour le même crime. Leur forfait, le même qu'à Montréal, sans permis municipal, de porte en porte, ils auraient distribué des numéros du journal Vert Demain et auraient là encore sollicité des adhésions. Dans toutes ces causes, votre mouvement m'honora de sa confiance et je pris leur défense. Ces procès, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, posaient le problème de la liberté de parole et d'expression. Madame Côté-Mercier sait combien ce sujet me tient à cœur, d'où son invitation à vous parler aujourd'hui. Toutefois, je tiens à le déclarer, je ne suis membre d'aucun parti politique, d'aucune institution à caractère politique, et même d'aucun mouvement d'éducation politique. Avocat et toujours avocat, c'est la question des libertés civiles qui me tient et me retient à cœur. Triste jour, vous en conviendrez, mesdames et messieurs, quand une municipalité exige un permis pour diffuser sa pensée. La ville de Montréal l'a compris. Son règlement en pareille matière ne s'applique pas aux journaux qui sont spécialement exclus par son règlement. Et c'est pour cette raison, entre autres, que les deux créditistes gagnèrent leur cause. Ils furent acquittés. Victoire non seulement pour eux-mêmes, mais pour les libertés civiles, pour vous et pour moi. D'autre part, à un an de distance, la ville de Hull, elle, ne le comprend pas, ne l'a pas compris, et elle prétend soumettre la vente d'abonnements à des journaux d'expression politique comme les autres, à l'obtention, et vous entendez bien, à l'obtention préalable d'un permis. Écoutez bien ceci. Le règlement stipule, et si vous me permettez de citer le texte, cette licence ne sera accordée toutefois que sur, et vous entendez bien, sur recommandation écrite du directeur de police. Sur quoi le chef de police ou le directeur va-t-il baser son acquiescement ou son refus? Le règlement est silencieux. Aucune directive, aucune norme objective, c'est l'arbitraire et ce pourra être, peut-être, la politique des bons petits copains. Votre face ou votre verrait ne lui reviennent pas, le directeur pourra vous refuser ce permis de diffuser vos idées par un journal. Au contraire, aime-t-il votre façon de l'aborder, aime-t-il votre visage, vous aurez sans doute votre permis. Est-il en désaccord avec les idées que vous prônez, le permis vous sera sans doute refusé. Partage-t-il vos opinions? De tout cas, sans doute, il vous émettra le permis sollicité. Vous connaissez sans doute le mot du poète Paul Claudel, « Maintenant recommence la servitude de l'homme à l'homme, et ils appellent cela liberté. » J'affirme que ce contrôle des idées en est une de censure. C'est véritablement une censure à son état le plus bête. Et le pouvoir municipal n'a pas le droit de censure. Dans un jugement rendu en 1953, si l'on me permet de citer ici rapidement les points techniques, dans un jugement de 1953 dans une affaire de Saumur, le juge Locke de la Cour suprême du Canada avait l'occasion d'étudier un règlement un peu semblable qui voulait exiger un permis de gens qui tentaient de distribuer leurs idées dans les rues d'une ville de la province de Québec. Et le juge disait ceci, le véritable but et la nature de ce règlement n'est pas de contrôler l'état des rues ni du trafic, mais d'imposer une censure sur la distribution d'écrits dans les rues. Or, le droit au libre exercice et à la jouissance d'une confession religieuse et du culte, sans discrimination ni favoritisme, sujet à la limitation exprimée dans les mots concluant le premier paragraphe du statut de 1852, n'est pas de la nature des droits civils ressortissant au titre 13 de l'article 92 de l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Mais c'est un droit constitutionnel de tous les citoyens reconnus. C'est un droit reconnu par le premier paragraphe du statut de 1852, ou implicitement compris, dans les termes du préambule de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. La province n'a donc pas le pouvoir d'autoriser la passation d'un tel règlement qui restreint les droits de la clan ou la liberté du culte. Mais un autre juge, le juge Rand, applique cette fois le même principe à la liberté de parole ou de pensée. Ce règlement, dit Monsieur le juge, le brave juge Rand, est une législation en rapport avec la liberté de parole, et non pas en rapport avec l'administration des rues. Or, la liberté de la presse et la liberté de parole ne sont pas des droits civils en matière d'une nature locale ou privée relevant des provinces. La matière de ce règlement outrepasse donc le pouvoir législatif de cette province. Et a fortiori, à plus forte raison, un gouvernement municipal ne peut-il, à notre avis, adopter un pareil règlement. Et pourtant, mesdames et messieurs, je vous pose la question, mes chers auditeurs, est-ce que vous avez, est-ce que j'ai, est-ce que nous avons le droit à nos opinions et le droit à la diffusion de nos opinions? La liberté de parole découle des libertés civiles, c'est-à-dire, à titre d'exemple, la liberté politique, la liberté de conscience, la liberté de presse, la liberté personnelle, la liberté de travail, la liberté d'association, la liberté des cultes, et ainsi de suite. Ces libertés sont véritablement des attributs de la citoyenne. Elles sont incessibles, inaliénables, elles sont, pour ainsi dire, et vous en conviendrez, nécessaires à l'épanouissement de toute la personnalité du citoyen. La liberté de parole chez nous, et nous devons le retenir, à l'instar de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, nous est accordée par le Bill, ce qu'on appelle le Bill canadien des droits de l'homme. Et le Bill canadien, si une fois de plus vous me permettez de vous lire un texte, prévoit explicitement, et je ne saurais trop insister, prévoit à l'article 1, il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales, si après énoncées, ont existé et continueront d'exister pour tout individu au Canada, quelle que soit sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion et son sexe, D, la liberté de parole et la liberté de réunion et d'association, et E, la liberté de la presse. De plus, cette liberté qui nous est si chère et qui est le fondement même de toute démocratie, nous est accordé par des documents, par des textes constitutionnels nombreux et par toute une tradition juridique. L'honorable juge Duff, alors qu'il était juge en chef de la Cour suprême du Canada, a écrit ceci que je vous cite, vu son importance. Un pouvoir législatif, et j'ajoute pour ma part qu'il fut fédéral, provincial, municipal, un pouvoir législatif doit œuvrer sous l'influence de l'opinion publique et de la discussion publique. Toute tentative d'abrogation de ce droit à la discussion ou pour entraver l'exercice de ce droit ne compte pas aux législatures provinciales. La liberté de parole et de discussion est le souffle de vie d'une démocratie. Malgré soi, on pense à Bertrand Jouvenel dans son traité de la souveraineté. La liberté d'opinion, écrit-il, est le principe fondamental des institutions politiques de l'Occident. La liberté d'opinion, comme ce qu'on appelle la dialectique de la démocratie, de la libre concurrence des opinions. Une opinion majoritaire se dégage, ou encore commence. De la libre concurrence des opinions, une opinion majoritaire se dégage et commence. Mais son commandement ne saurait jamais entraver le jeu de la liberté d'opinion, et qui se poursuit et aboutit à une opinion majoritaire différente, et qui commande à son tour. Interrompez ces processus, aussitôt vous sortez du régime de liberté. L'opinion majoritaire tire son autorité non de la majorité seule, mais de la majorité formée dans un climat de liberté de pitié. Et finalement, Bertrand Jouvenel conclut, ce que le terme liberté d'opinion suggère à l'esprit, c'est la liberté de propagation des opinions, le droit d'initiative et d'entreprise dans la diffusion des opinions qui nous tiennent à cœur. Eh bien, mes chers auditeurs, vous le voyez donc, vous avez la pleine jouissance de votre liberté et vous devriez vous servir intégralement de vos droits. La loi n'allie à votre liberté de parole et d'opinion que quelques limites et qui sont d'ailleurs prévues pour favoriser cette liberté elle-même en enrayant un abus de liberté. D'abord, vous ne pouvez conseiller à personne de commettre un crime. C'est une première limitation. Ensuite, c'est la deuxième limitation, vous ne pouvez tenter ou conseiller de changer un gouvernement ou un régime politique par la force. Vous devez le faire par les moyens pacifiques de la loi, autrement ce sera la sédition. Enfin, troisièmement, vous ne pouvez sans justification provoquer ou prononcer contre quelqu'un des paroles susceptibles de le diminuer, de l'exposer à l'outrage ou au ridicule, car alors c'est, vous le devinez, la diffamation et le libel. Mais à part cela, vous avez le droit de critiquer même vos gouvernements quand ceci est fait dans l'intérêt public et que les faits sont vrais. En conséquence, n'ayez donc aucune gêne, même en dépit des bandeaux que veulent poser sur la bouche des gens, certains règlements municipaux. Parler et diffuser vos opinions, c'est un droit sacré. Et je pense maintenant à ces créditistes que j'ai pu défendre à Montréal et à Paris. Ils ont mené, j'en suis convaincu, le bon combat. Non seulement leur combat, mais le combat de tous, le combat des libertés civiles. Si l'on érige des monuments aux soldats inconnus, il faudra ériger des monuments aux soldats de la liberté et des libertés civiles.
Nous avons entendu Maître Guy Guérin, avocat de Montréal et professeur de procédure civile à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est le journal Vers demain qui vous a présenté son programme hebdomadaire. Nous remercions Maître Guérin et vous-même, mes amis, nous vous invitons à vous abonner au journal Vers demain. Je vous donne l'adresse Journal Vers demain, Rougemont, comté Rouville, province de Québec.